Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 3 février avec une page importante politique. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarcelli, LR, crée la surprise en remportant la primaire organisée par la droite en vue des élections métropolitaines de 2026. Pas de surprise à Francheville où Claire Pouzin remporte les élections municipales. Georges Képénékian, ancien maire de Lyon et actuel conseiller municipal d'opposition, annonce lui sa candidature à la mairie de Lyon. Les habitants de L'Arbrelle disent oui à la vidéoprotection. Les soulèvements de la terre ont manifesté samedi à Lyon pour mobiliser l'opinion publique contre l'Empire Bolloré. Explications et interviews dans ce quart d'heure lyonnais. L'économie sociale et solidaire serait-elle menacée en cette année 2025 ? La région aurait décidé de l'arrêt de la plupart de ses financements au dispositif ESS. Explication avec Nicolas Planchon, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et puis à la fin de ce quart d'heure lyonnais, les principaux résultats de sport du week-end.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarcelli, a créé la surprise hier. Elle a remporté la primaire organisée par la droite en vue des élections métropolitaines, alors que le maire d'Écully, Sébastien Michel, était donné favori. 30 voix contre 22. C'est donc Véronique Sarcelli qui conduira la liste de la droite aux futures élections métropolitaines de mars 2026. Sébastien Michel faisait campagne depuis plusieurs mois. Il avait aussi le soutien de Laurent Wauquiez. Claire Pouzin remporte les élections municipales à Francheville. La candidate LR améliore même son score du premier tour avec 51,4% des voix. Derrière Caroline Paris et la liste Vivre Francheville obtient 21%. Hélène Duvivier, la candidate écologiste de Francheville, respire 17%. Olivier Roche ferme la marche avec sa liste Nous Franchevillois, 10,4% des suffrages exprimés. Le conseil se réunira vendredi prochain pour élire la nouvelle maire de Francheville. Georges Képénékian, ancien maire et actuel conseiller municipal d'opposition, annonce lui sa candidature à la mairie de Lyon. Celui qui fut maire de Lyon pendant que Gérard Collomb était ministre pendant 17 mois lance un appel au rassemblement et à la mobilisation au-delà des lignes partisanes. Comme avec le PS, j'en ai fini avec Renaissance. Moi, mon parti, c'est Lyon, affirme Képé dans une interview au Progrès. Pas question non plus d'un rapprochement avec David Kimmelfeld, dont il qualifie la position d'illisible. Képénékian entend dans les prochains mois réunir des Lyonnais de la société civile, des jeunes, des étudiants, des entrepreneurs, des universitaires ou encore des acteurs de la santé. Un référendum sur la vidéoprotection. Les habitants de L'Arbrelle étaient invités à se prononcer hier sur le projet de vidéoprotection proposé par la mairie. Et c'est le oui qui l'emporte avec 53,6% des votants sur les 4397 inscrits. 1391 se sont déplacés pour glisser leur bulletin dans l'urne, soit un taux de participation de 31%. Le programme de vidéoprotection n'était pas inscrit dans le programme du maire, Pierre-Jean Zanettaki, d'où le recours à un référendum.
Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain.
Ce week-end a été marqué par une série de manifestations pour mobiliser l'opinion publique contre l'Empire Bolloré et, je cite, « rassembler un large front à la fois social, syndical, écologiste, antiraciste, féministe, décolonial et international ». À la manœuvre notamment ce week-end les soulèvements de la terre et l'antenne lyonnaise d'Action Justice Climat. Environ 200 personnes se sont réunies samedi après-midi place Guichard pour pointer du doigt et désarmer le système Bolloré. Dans la soirée, une dizaine d'activistes se sont également retrouvés au bord du Rhône pour projeter des messages percutants sur les berges et sur le pont Moran. Nous avons rencontré Camille, membre du comité local des soulèvements de la terre.
Bolloré, pourquoi on s'attaque qu'à lui ? En fait, c'est juste qu'il représente le symbole du milliardaire qui veut imposer ses idées d'extrême droite en France. Mais il n'est pas le seul. D'autres milliardaires peuvent suivre et clairement, ils ont un tel pouvoir que, enfin, il faut en avoir conscience. Depuis une quinzaine d'années, il a commencé à racheter plein de médias français. Donc, il y a tout le groupe Lagardère avec Europe 1, Hachette, le Journal du Dimanche, RFM. Il y a le groupe Havas, qui est de la communication. Il y a le groupe Canal+, avec CNews, OCS, C8. Il y a Dailymotion, Universal. Salle Musique, Prisma Média avec Capital, Voici, Géo, Femme Actuelle, Simone Média. Donc il a racheté tout ça pour imposer son projet politique d'extrême droite. Clairement, son empire médiatique sert à l'extrême droite française. Le danger, c'est que les médias privés d'extrême droite prennent toute la place, sont les plus vus aujourd'hui en France. Clairement, c'est pas les médias indépendants ou les médias du service public qui sont les plus suivis. Enfin, moi, j'ai découvert très récemment, par exemple, que Simone Média, c'est un média féministe. Appartenait à Bolloré, j'étais un peu surprise parce que il y a plein de livres, par exemple, de livres scolaires. avec Atier par exemple. Et en fait, c'est juste en avoir conscience, parce qu'en fait, on n'en a pas spécialement conscience aujourd'hui, clairement. Donc en fait, rien que se renseigner, on peut aller voir par exemple sur desarmeesbolloré.net, on peut voir qu'est-ce qui appartient à Bolloré, et c'est hyper intéressant de le savoir déjà et de le partager.
Camille, je le rappelle, est membre du comité local des soulèvements de la terre. L'éboulement survenu sur la route qui mène aux stations de ski de la Tarentaise en Savoie continue de perturber le trafic dans les Alpes. Vers 10h30 samedi, trois blocs s'étaient décrochés de la falaise à hauteur d'Aigueblanche pour atterrir sur la Nationale 90. Ces blocs ont franchi les mécanismes de protection. Les filets de protection installés ont été en effet en partie arrachés dans l'éboulement. Une automobiliste a été légèrement blessée. Dès dimanche, les équipes techniques ont réalisé une première purge pour nettoyer la falaise. Les deux prochains jours seront consacrés à une expertise. Le rapport des géologues est attendu en milieu de semaine. On sait d'ores et déjà que la route ne devrait pas être prête pour le début des vacances d'hiver, en tout cas pour la première zone le week-end prochain.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
L'économie sociale et solidaire serait-elle menacée en cette année 2025? La région aurait décidé de l'arrêt de la plupart de ses financements au dispositif ESS. C'est ce que croit savoir la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui induirait la suppression totale de la subvention annuelle à la Chambre régionale, 230 000 euros en 2024. La fin du soutien au dispositif local d'accompagnement, DLA. La fin du financement régional à France Active et ses associations locales en région. La fin aussi des aides à la création de SCOP, une décision qui, si elle était confirmée par les politiques, aurait des conséquences graves sur l'emploi. Comme nous l'explique Charles Dadon, il est le président de l'UDES Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire.
La menace, c'est 23 000 emplois qui sont menacés dans la région pour l'économie sociale et solidaire. On parle que de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est un point assez important. Deuxièmement, sur la plateforme, pour ceux qui recherchent de l'emploi, évidemment, si cette plateforme vient à fermer, ça peut évidemment accroître le chômage et donc le retour à l'emploi aussi pour certaines personnes. Et donc, c'est une préoccupation. Nous, les secteurs les plus visés, c'est les métiers de la santé. C'est aussi tout ce qui concerne la formation, parce qu'en fait, on manque de recrutement dans la formation. Et évidemment, pour la suite, pour l'emploi, c'est aussi préjudiciable.
La CRES Auvergne-Rhône-Alpes assure la représentation, la promotion et le développement des associations, fondations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales de l'ESS. Elle est reconnue depuis 2014 comme une chambre consulaire, au même titre qu'une chambre des métiers ou une chambre d'agriculture. L'amputation d'un quart des ressources de la CRES impacterait non pas son rôle de représentation, qui est bénévole, mais son travail opérationnel. Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons rencontré Nicolas Planchon, son président.
Les préoccupations, c'est l'annonce par le Conseil régional de la suppression de tout crédit en direction de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et d'autres opérateurs de l'ESS. Je songe singulièrement au DLA, aux dispositifs locaux d'accompagnement, à France Active et à AGF SCOP dans le cadre du financement de l'accompagnement à la création de SCOP et de SIC dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc une vraie inquiétude suite à cette annonce qui n'est pas motivée et étayée politiquement, c'est juste un coup de fil des services et c'est pas un courrier officiel qui nous signifie cet abandon de tout soutien du Conseil régional.
C'est quoi l'ESS dans la région?
Alors l'ESS dans la région, c'est 330 000 emplois, un emploi sur 7, et c'est 28 000 structures employeurs. Donc c'est environ 11% de l'économie régionale, deux fois plus que le secteur du BTP. Donc c'est un acteur multiple, mais de poids, qui pèse sur l'économie régionale en général.
C'est quelque chose qui rapporte, qui apporte de la richesse, ou c'est quelque chose qui pèse sur la société?
Alors c'est quelque chose qui génère de la richesse. Les structures de l'économie sociale et solidaire, dont les associations, hein, toutes confondues, pour 1 euro de subvention versée, c'est 7 euros en moyenne de reversés aux biens publics sous forme de cotisation ou sous forme de TVA, bref, sous forme aussi économique et monétaire, pas seulement sur la réponse aux besoins des habitants du territoire, même si finalement, nous, notre fonction, elle est bien sûr sur l'utilité sociale, mais la matrice économique dit aussi que l'ESS est rentable.
Donc il y a deux menaces, hein. Il y a le projet de loi de finances et les financements de la région.
Absolument, puisque le PLF reste incertain, on va être à la version 3 bis, et que pesaient déjà des menaces assez certaine sur l'ensemble de l'économie sociale et solidaire dans le PLF 2025, donc avec des redescentes dans les territoires. Et je dirais que les mauvaises annonces ou les annonces extrêmement préoccupantes en région, mais ailleurs aussi de la part d'autres collectivités, on est dans un jeu d'effets dominos, de contraction finalement du soutien public lié en réalité à la dette de l'État et au PLF. Et je pense qu'un des argumentaires principaux que j'entends des collectivités, c'est de se dire bah, nous aussi, on doit compenser et amortir la dette nationale en contrôlant et en réduisant l'ensemble de nos budgets.
Quelles seraient les conséquences alors d'une contraction des finances ?
Alors, la conséquence, c'est la capacité d'agir aujourd'hui de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire comme des autres acteurs de l'ESS, et on est avant tout au service des besoins du territoire et notamment des entrepreneurs en matière d'accompagnement de l'ensemble des créateurs d'activités de ce territoire. Au-delà des 330 000 salariés, il y a aussi un nombre très important de créateurs que la CRES et d'autres acteurs accompagnent à la création. On fait finalement la même fonction que nos homologues et cousins des consulaires, entendez la CCI et la CMA, sur le secteur de l'ESS.
Et justement, vous sentez une certaine ségrégation entre guillemets entre l'ESS justement et les autres chambres ?
On n'a pas périmétré l'ensemble de la menace en disant on est dans des logiques concurrentielles. Ce que je sais là au niveau du PLF, évidemment, c'est que les matrices de taxes parafiscales et dotations générales aux CCI et aux CMA sont aussi menacées dans le cadre du PLF. Donc on voit bien que finalement on est dans une difficulté générale sur les opérateurs et les acteurs de terrain au service de l'économie locale. Donc finalement, sur d'autres registres, probablement que les CCI et CMA tiendront peu ou prou le même discours que moi.
Du côté de la région, on vous donne des explications à cette suppression des financements ?
Non, la vraie difficulté, c'est qu'on n'a aucune explication, puisque dans son budget primitif, l'Assemblée des élus, qui reste souveraine, et je plaide pour la souveraineté des assemblées territoriales, quelles qu'elles soient, et quel que soit évidemment le bord politique, elles sont pleinement souveraines et élues démocratiquement. Ce qu'ils ont voté les uns les autres, c'est simplement des mesures correctives de réajustement en direction des dispositifs de l'ESS, sans autres explications. Et ensuite, c'est un coup de téléphone des services, et pas une lettre des élus motivés et qualifiés qui nous a annoncé la disparition de nos crédits.
Ça a une conséquence également sur cette plateforme qui centralise l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Ambition ESS ?
Absolument, la plateforme Ambition ESS qui est un carrefour pour tous les opérateurs de l'ESS, à la fois pour les structures qui propulsent principalement des offres d'emploi, 100 000 emplois à pourvoir au niveau national, donc vous prenez 14 à 15% en région et vous aurez le volume d'emplois disponible sur multi-secteurs, multi-activités de l'ESS, sont propulsés via cette plateforme Ambition qui était à la co-initiative de la région, du conseil régional, de la région et de la CRES, et pilotée par la CRES, financée évidemment principalement par le conseil régional dans une sorte de délégation de services publics en réalité, et qui sert à 50 000 visiteurs par mois, 50 000 visiteurs uniques pour principalement chercher de l'emploi et en trouver. Donc un bilan très positif de cette plateforme. Si elle n'est plus financée, je ne vois pas comment elle pourrait continuer de fonctionner.
Donc ce serait écran noir et donc avec des conséquences évidemment pour chercher, pour mettre en adéquation les jeunes notamment et ce secteur qui est très prisé finalement auprès d'eux.
Oui, absolument. On a entre 70 et 80% en fonction des enquêtes auprès des jeunes qui placent la prévalence de l'utilité sociale dans la recherche de travail au même niveau que le niveau de rémunération. Donc il y a une appétence très forte pour les structures de l'ESS en général chez les demandeurs d'emploi comme chez les créateurs, et que ça remet en question cette possibilité de trouver réponse à sa question.
Nicolas Planchon, président de la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, pour rappel, l'économie sociale et solidaire, c'est un emploi sur sept dans le privé en région, soit 330 000 emplois pour 28 000 employeurs, mais aussi 2,2 millions de bénévoles au service de bonnes causes. Les principaux résultats de sport du week-end, l'Olympique Lyonnais, pour la première fois coaché par Paulo Fonseca, a finalement cédé devant Marseille 3-2, un match spectaculaire en deuxième période. En basket, l'ASVEL a concédé une cinquième défaite en championnat à Beaublanc face à Limoges. Les Villeurbanais se sont inclinés 84-81. Relégué à la quatrième place du classement, l'ASVEL va devoir très vite se relever. Trois déplacements l'attendent cette semaine. À Belgrade pour y affronter l'Étoile Rouge, ce sera demain mardi. À Munich pour y défier le Bayern jeudi. Et enfin à Paris pour le compte du championnat. Et là, ce sera dimanche. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.